J'aimerais commencer avec un verset de la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens et au chapitre 2. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Et j'aime bien ce bruit des Bibles. Des pages de Bible. Voilà. Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et j'aimerais parler de l'importance de la parole de Dieu pour nous, parce que cette parole, c'est la parole de Dieu, et c'est la parole qui agit en vous qui croyez. Il faut avoir la foi, bien sûr. Est-ce que la parole de Dieu est réelle pour nous? Est-ce que ce qu'il y a dedans, c'est vrai, c'est réel? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que on peut baser notre vie, notre éternité sur la Bible? Quand j'étais nouveau chrétien, dans mes 20 ans, j'ai été amené au Seigneur par un chrétien. Et puis, peu de temps après, il nous a placés dans différentes églises et je me suis retrouvé dans l'église du pasteur Arthur Somerville. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église baptiste et j'étais très, très méfiant. J'avais ma Bible et je suis venu avec ma Bible et je me suis mis au fond et j'ai dit, s'il y a une erreur, si je sens qu'il ne suit pas la Bible, je ne remets plus les pieds ici. Et non seulement le pasteur utilisait la Bible, mais il approfondissait les Écritures, il l'appliquait dans la vie et c'était vraiment très biblique. Et j'ai dit, oh là là, là ça c'est bon, c'est ça que je cherche, c'est comprendre la parole de Dieu et l'entendre et qu'elle soit proclamée et vécue. Plus tard, j'ai pu écouter aussi certains messages audio de Ralph Chalice, qui est avec le Seigneur maintenant, mais qui faisait des longs messages. Et lui, il prêchait 1h15, 1h30 des fois, mais il dit « j'aime la parole de Dieu ». Et c'était des messages sur la parole de Dieu, à partir de la Bible. Et puis aussi, ce pasteur évangéliste canadien Robert Lortie, hein, quand il était venu prêcher la parole, il disait « moi j'aime la Bible » avec son accent québécois, « combien j'aime la Bible » et ça m'a marqué en tant que jeune chrétien, cet amour pour la parole de Dieu, et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre de côté. La Bible est essentielle pour notre âme, elle nourrit notre âme, elle est essentielle pour conduire notre vie. Elle est essentielle pour savoir où on va passer l'éternité. Alors, j'ai toujours ma petite devinette. Un chrétien sans sa Bible, c'est un professeur sans livre, et en particulier, quel livre est important dans l'école pour apprendre le français? Dictionnaire, voilà. Je vous avais dit, c'était une devinette. Hein. Le dictionnaire, c'est un peu la base. Hein. C'est là où l'Académie française travaille depuis des siècles, presque. Qu'est-ce que les mots veulent dire? Et la Bible, c'est notre dictionnaire, un petit peu. C'est aussi un chrétien sans sa Bible, c'est un juge sans son code pénal. Hein. Le juge, il doit se référer à la loi. Le juge ne décide pas ce qui est juste ou vrai ou faux, lui. Le juge, il attend qu'on lui mette face une enquête et ensuite, il doit décider ce que la loi décrète. Et la loi se trouve dans le code pénal. Bien sûr, il peut ajuster la loi, notamment le nombre d'années de peine ou les choses comme ça, mais il doit suivre le code. Un chrétien sans sa Bible, c'est un médecin sans son... Vidal, voilà. On voit ceux qui connaissent la médecine, le Vidal, c'est ce dictionnaire médical qui vous dit quel médicament administrer pour quelle maladie. Enfin, je ne sais pas si c'est gros comme ça, mais c'est assez gros. et ça change tout le temps. La Bible, nous, c'est tout ça pour nous. C'est notre code pénal, notre vidal de l'âme, notre dictionnaire, c'est notre livre de chevet, c'est la source de notre foi. La Bible est un livre vivant qui doit avoir toute sa place dans la vie du chrétien. Combien de péchés auraient été évités si on avait suivi la parole? Combien de mauvaises décisions n'auraient pas été prises? Combien de bons choix on aurait fait si on avait suivi la parole de Dieu? Combien de sectes pernicieuses n'auraient pas vu le jour si quelqu'un n'avait pas tordu les Écritures? On dit, ah, la Bible, il y a plein de sectes, chacun se réclame de la Bible, mais les sectes, en fait, ne se réclament pas de la Bible. Ils se réclament de certains versets. Ils prennent un verset hors du contexte, ils le tournent et ils le changent. Pour exemple, la société de la tour de garde, dit les témoins de Jéhovah, ils se réclament de la Bible. Ils disent, nous avons la Bible. D'ailleurs, ils pensent avoir la seule vraie Bible. Ils ont la seule vraie Bible. Qui ne s'appelle pas la Bible, qui s'appelle la traduction du monde nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû refaire la Bible. Ils ont dû la modifier pour que ça colle avec leur doctrine sectaire. Leur doctrine sectaire, c'est qu'ils sont les seuls au monde à avoir le vrai nom de Dieu. Le vrai nom de Dieu, ce serait Jéhovah. Et ils ont mis Jéhovah dans le Nouveau Testament. Or, Jéhovah n'est jamais dans le Nouveau Testament. Il y a Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur, mais il n'y a pas Jéhovah. Et eux, ils l'ont mis. Comment ils l'ont mis? Ils ont falsifié la Bible. Ça a été prouvé à maintes reprises. D'abord, ceux qui ont prétendu traduire la Bible chez les témoins de Jéhovah n'avaient aucune connaissance de l'hébreu et du grec. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour traduire la Bible. En fait, on connaît le fin mot de l'histoire. C'est qu'ils ont pris une Bible un peu bizarre, faite par un obscur chrétien. S'il était chrétien, ce n'est même pas sûr. Et à partir de cette Bible, ils ont modifié les versets, surtout sur la divinité de Jésus-Christ, parce que c'est ça qu'ils ont changé. Et ils ont dit, ça c'est la vraie Bible, toutes les autres sont fausses. Voilà. Mais il n'y a pas la vraie Bible. La vraie Bible, c'est celle qui a été révélée aux apôtres. Nous avons des textes hébreux, des textes grecs, et il faut suivre ces textes et non pas changer ce qui nous dérange ou enlever ce qui nous dérange. Pourquoi la Bible est importante pour nous? Parce que c'est la lettre inspirée de Dieu. Comment connaître Dieu? On peut croire en Dieu, on peut dire il y a un créateur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut ce créateur? Pourquoi il nous a créés? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Comment il est ce créateur? Quelle est sa pensée? Est-ce qu'il est très dur? Est-ce qu'il est très mou? Est-ce qu'il est absent? Est-ce qu'il est présent? Comment connaître Dieu? Mais les amis, il n'y a pas 36 moyens. Hein. Il nous a révélé sa pensée, sa parole. La Bible. Il a inspiré des prophètes. Je lis dans la deuxième épître de Pierre. Donc c'est l'apôtre Pierre qui a écrit ça. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 20. Donc, c'est ça. 2 Pierre 1, 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'entends souvent, ah, mais la Bible, c'est un livre d'hommes, c'est écrit par les hommes. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas Dieu qui a écrit, sauf les tables de la loi, on sait que c'est Dieu qui les a gravées, mais la Bible, ce sont des hommes. Mais ce sont des hommes poussé par Dieu et inspiré par Dieu. Et comment le sait-on? C'est que la Bible est un livre extraordinaire. Elle est assez courte. Pourtant, elle contient tout ce qu'il faut pour mener la vie éternelle. C'est pas gros, hein, la Bible. Oh, c'est un gros livre. Pas du tout. Si vous comparez au Vidal ou au dictionnaire, c'est plus petit, hein. Rien que dans le Nouveau Testament, il y a 180 000 mots. Dites, c'est beaucoup, 180 000 mots pour le Nouveau Testament. Mais savez-vous combien il y a de mots dans le journal 20 minutes que vous prenez au métro? Il y a 10%, donc 10 fois moins. Il y a 18 000 mots. Vous lisez 10 fois 20 minutes et vous avez lu le Nouveau Testament. Pourtant, le Nouveau Testament, à mon avis, a plus de choses importantes. Hein, pour l'éternité. Mais c'est pour vous dire, c'est court. Et en même temps, ça dit Il y a une unité dans la Bible, entre la Genèse et l'Apocalypse, et au milieu, vous avez une unité de pensée, vous avez le problème de l'humanité qui est le péché, la rébellion contre Dieu, et vous avez la solution de Dieu qui est le Messie, et qui s'incarne dans la personne de Jésus, Jésus-Christ, Jésus le Messie. Tout ça, ça résume la Bible, et la Bible a un seul auteur, Dieu. Dieu nous parle directement dans la Bible. Et quand on ouvre la Bible, on ouvre la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Et le fait que Dieu ait voulu que ce soit écrit, c'est très important. On dit, ah, les traditions orales, ça se défend. Mais justement, la Bible n'est pas une tradition orale. La Bible est une tradition écrite. Moïse savait écrire. L'écriture était connue bien avant Moïse. Et Dieu a voulu que ce soit écrit pour que justement les hommes ne viennent pas modifier tout ça. On dit, mais comment on sait que ça n'a pas été modifié, la Bible? Eh bien, grâce à l'archéologie, grâce à l'étude des manuscrits, il y a des manuscrits anciens. Il n'y a pas d'autres livres que la Bible. Et je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. Je dis ça parce que c'est un fait. Il n'y a pas d'autres livres de la Bible qui aient autant de manuscrits anciens aussi précis et aussi justes. Voilà. Rien que pour le Nouveau Testament grec, il y a 5400 manuscrits en grec qui datent d'avant le 5e siècle. C'est énorme. Normalement, ça, il y avait, avant l'imprimerie, on perdait, tout, c'était en papyrus, c'était pas très solide. Il y en a énormément. Grâce à ces manuscrits, on peut retrouver le vrai texte, hein, et on voit qu'il n'y a pas eu de changement, qu'il n'y a personne qui a essayé de modifier la Bible, parce que les Juifs, comme les chrétiens, avaient un respect absolu pour la parole de Dieu. Il ne se serait pas permis de la modifier. Il y a des erreurs de scribes, mais tout ça, ça s'en va avec les différents manuscrits. Dans un autre verset, c'est Paul, cette fois-ci, c'est pas Pierre qui le dit, 2 Timothée 3,16, c'est vraiment un verset à connaître par cœur, un verset très important du Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'Écriture est inspirée de Dieu, il le répète. C'est inspiré, insufflé, c'est Dieu qui a insufflé sa pensée dans les prophètes lorsqu'ils ont écrit. Mais c'est utile, c'est ça que j'aime bien. La Bible est utile. On devrait l'enseigner partout. Hein. Il y a tellement de bonnes choses dans la parole de Dieu. C'est tellement utile. Et pour beaucoup de chrétiens, la Bible n'est pas utile. Elle est dans la bibliothèque et la poussière s'accumule. On peut savoir le nombre d'années, vous ne l'avez pas utilisé, à la poussière qu'il y a dessus. C'est triste quand les chrétiens n'ouvrent plus leur Bible. Parce que c'est Dieu qui parle. Si on n'écoute plus Dieu, on n'est plus chrétien. On ne sait pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je ne sais pas, je n'ai pas ouvert la Bible. C'est catastrophique. La Bible n'est pas un objet sacré. Ce n'est pas un livre qu'on vénère en disant « adorons la Bible ». Non, c'est le texte qui nous intéresse. C'est ce que Dieu dit. Elle est profitable pour corriger, pour instruire. Pour redresser, mettre dans le droit chemin, pour reprendre, pour donner une intelligence. J'ai remercié le Seigneur de voir que dans la première partie, dans le culte, il y avait la même pensée chez Gabriel, de mettre en valeur cette idée que la parole de Dieu nous donne une intelligence, une connaissance essentielle pour la vie présente et la vie éternelle. Toute l'Écriture, dit le passage ici, hein, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et ça, c'est une clé pour interpréter la Bible. On n'interprète pas la Bible en prenant un verset qui nous intéresse, au milieu. Disant, ah, oh là, là j'ai vu un verset, ça me plaît bien, je vais vraiment en tirer toute une vérité. Non, 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 attention, on ne prend pas un verset au milieu. Vous connaissez peut-être le proverbe des théologiens, un texte hors du contexte, texte devient un prétexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un texte biblique hors de son contexte, vous pouvez en faire un prétexte pour dire n'importe quoi. La Bible s'interprète elle-même. J'entends souvent aussi cette idée, Oh, la Bible, de toute façon, n'importe qui l'interprète comme il veut. Il y a tellement de mots là-dedans, tu peux faire dire n'importe quoi. C'est vrai. Comme il y a beaucoup de mots, beaucoup de phrases, si vous coupez un petit peu des morceaux de phrases, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Sauf que la Bible ne s'interprète pas en coupant des morceaux de phrases. La Bible, il y a des livres dedans. Il y a un contexte historique, il y a un contexte spirituel, il y a un enseignement suivi tout au long de l'écriture. On ne peut pas prendre la Bible juste un verset comme ça. C'est pour ça qu'il faut la lire régulièrement, qu'il faut la lire en entier. Moi, j'ai mon livre favori dans la Bible. Oui, mais il faut que je lise les autres qui sont moins favoris. Parce qu'il y a des vérités importantes pour moi. Deutéronome, Lévitique. Qui aime le livre du Lévitique? Ben, il y en a, ben, bravo, c'est bien. Pourtant, il y a des vérités profondes sur la sainteté de Dieu, sur la sainteté personnelle. Mais justement, sainteté, c'est pas notre mot favori, hein? Nous, on aime amour, pardon, joie, paix, mais sainteté, pourtant, on a besoin de la sainteté. Dieu est saint, on doit être saint aussi en tant qu'enfant de Dieu. Mais surtout, la Bible nous révèle notre état spirituel. Elle le révèle à tous les hommes qui l'ouvrent et qui la lisent. Elle nous révèle comment être réconciliés avec notre Créateur. Il y avait un homme, un criminel, un délinquant qui se moquait de Dieu et de la Bible et des chrétiens. Et en prison, il essayait de trouver des moyens d'avoir des cigarettes. Et il avait beaucoup de mal à s'en procurer, et donc il avait demandé qu'on lui envoie du papier et du tabac, et il se roulait lui-même ses cigarettes avec le papier et le tabac. Et il avait pris une Bible pour fumer la Bible. Donc il déchirait les pages de la Bible et il roulait, parce qu'il dit le papier Bible c'est génial pour les cigarettes, hein. Vous voyez dans quel état il était spirituellement. Pour lui fumer la Bible, c'était bien pratique. Sauf que, un jour, avant de rouler la feuille, il a commencé à lire, il est tombé sur une phrase, et il a lu, il a lu, il a lu, et puis il ne pouvait plus s'arrêter, il a pris une autre page, et il a continué à lire, jusqu'à ce qu'il découvre le Seigneur, l'auteur de la Bible. Il a dit, mais Dieu, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu m'aime. Il est devenu chrétien dans sa cellule, après avoir fumé la Bible. C'est pas commun quand même, hein. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur le moyen d'être réconcilié avec Dieu? Comment être sauvé? Est-ce que ce n'est pas la question la plus importante qui soit? Sur notre lit de mort, on voudrait savoir comment je suis sûr d'être pardonné, d'être réconcilié avec mon Créateur. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une prière? Je dois faire des rites? On doit me mettre de l'eau ou de l'huile? Je dois être enterré à l'église? Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi! Mais la réponse est dans les Écritures. Ne cherchez pas midi à 14h. Je vous donne juste un verset, un exemple. Il y en a plein, hein, mais il y en a un. Colossiens 1, 20, parce qu'il est, j'aime bien, il est très clair. Colossiens 1, verset 20. Dieu a voulu, par Jésus-Christ, par lui, hein, Jésus-Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Dieu fait la paix avec nous par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Vous voulez être réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas la peine de faire 36 prières, 36 rituels, de vous mettre à genoux, de faire un pèlerinage. Regardez à Jésus-Christ crucifié. Et je ne parle pas de regarder une statue ou un crucifix. Je parle de regarder au Seigneur Jésus par la foi, avec les yeux du cœur, dire Seigneur, je crois que tu es venu mourir pour moi, que ton sang me réconcilie avec mon Créateur. Que le sang que tu as versé, c'est la mort que moi j'aurais dû vivre, que je méritais, que cette mort et cette résurrection ensuite me sauvent. On est sauvé par le sang de la croix. La Bible, c'est aussi la lumière sur notre sentier. Encore un beau verset à connaître par cœur, Psaume 119, 105. Psaume 119, qui est le psaume de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, c'est le plus long psaume, comme par hasard. Non, pas comme par hasard. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça dont on a besoin tous les jours. On a besoin d'un éclairage devant nos pieds. Seigneur, où dois-je aller? Que dois-je faire? Quelle décision prendre? Quel choix? Seigneur, j'ai cette épreuve, cette difficulté. Comment dois-je m'y prendre? La lumière est là, sur ton sentier. Mais il faut lire la Bible. Et il ne faut pas la lire juste quand j'ai un problème. Oh, mince, j'ai une épreuve. Vite! Hein, on enlève la poussière. Bon, allez, Seigneur. Ah! Vous saurez que je suis l'Éternel. Ça, c'est beau. C'est un beau verset. Mais si je lis la Bible comme ça, il ne va pas se passer grand-chose dans ma vie chrétienne. Je dois la lire tous les jours. Parce que Dieu me parle tous les jours. Et c'est là que Dieu me donne sa sagesse. Dieu ne veut pas nous donner des signes dans le ciel. Voilà, tu dois tourner à droite. Non. Dieu parle à notre cœur par son esprit à travers sa sagesse. La sagesse, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école. Il n'y a pas un livre qui vous dit, voilà, pour être sage, tu dois faire 1, 2, 3, 4, 5. Non. La sagesse, c'est comment vivre. Mais chaque vie est différente. Chaque personne est différente. On a nos personnalités, nos défis personnels, nos épreuves personnelles. Il n'y a pas un livre qui peut vous dire comment être sage. Sauf la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend sages. Elle guide le croyant sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dans le psaume 119, il dit « La révélation de tes paroles éclaire ». Dieu nous éclaire. Lorsqu'on est aveuglé, lorsqu'on ne voit plus clair, Dieu nous éclaire. Elle nous donne les décisions à prendre, enfin la sagesse, pardon, pour les décisions à prendre, pour notre famille, pour notre argent, pour notre travail, pour l'Église. Beaucoup rêvent d'un conseiller, d'un coach personnel. Il y en a même qui se le payent, hein, quand ils ont les moyens. C'est la mode des coachs. Parce qu'on ne sait plus vivre. Il n'y a plus de sagesse. Alors, il faut des coachs qui vous disent comment vivre, comment manger, comment faire de l'exercice, comment faire ceci dans l'entreprise. Voilà. On a besoin de coachs. Et il y a un coach merveilleux qui est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Parce qu'avec eux, il nous coach, il nous encourage, il nous motive et il nous éclaire sur les bonnes décisions, sur les choses à faire, sur l'attitude. Ce n'est pas juste les décisions, il y a la bonne attitude. David écrit toujours dans le psaume 119, verset 99, il dit « Grâce à ta parole, je suis plus instruit que mes maîtres. » Ça, c'est beau, quand l'élève dépasse le maître. Là, il ne s'agit pas de dépasser Dieu, il s'agit de dépasser nos maîtres humains. Au Moyen-Âge, chez les cathares et chez les vaudois, il y avait des paysans assez simples dans leur vie qui avaient des traductions de la Bible, hein, ce qui était interdit par l'Église officielle. Et ils lisaient la Bible, ils apprenaient à lire dans la Bible. Les Huguenots ont fait pareil aussi au XVIe siècle après, hein. On apprenait à lire dans la Bible. Eh bien, il y avait des enfants, il y avait des paysans qui connaissaient mieux la Bible que les prêtres et les évêques. Et lorsqu'il y avait un débat, les prêtres étaient gênés face à ces paysans ou à ces enfants. Et le Seigneur veut qu'on soit plus instruits que nos maîtres parce qu'on connaît la parole de Dieu. Ce n'est pas au pasteur de tout savoir dans la Bible et aux chrétiens de suivre. Ah oui, oui, amen. Ce n'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est que le pasteur donne des enseignements pour que chacun devienne un maître et que chacun serve le Seigneur. Et on doit toujours vérifier dans l'Écriture si ce qui est dit ici est biblique. La Bible est importante pour le chrétien parce qu'elle nous donne cette sagesse, mais pour ça, il faut la méditer, il faut la mâcher. Quand on lit la Bible, il faut mâcher. Peut-être on vous a dit, quand tu manges, il faut mâcher. Eh bien, quand tu lis la Bible, il faut mâcher aussi. Si tu lis la Bible comme un fast-food, comme un hamburger que tu manges à McDonald's, tu ne vas pas avoir tous les nutriments de la Bible. Il faut qu'elle fasse son effet quand elle touche notre cœur, notre pensée. J'aime toujours cette citation de George Muller, cet homme de foi qui faisait ceci. Il dit « La première chose que je fais dans la journée, après avoir demandé en quelques mots la bénédiction de Dieu à travers sa précieuse parole, c'est de commencer à méditer sur la parole de Dieu. » en cherchant une bénédiction dans chaque verset que je lis. C'est pas pour en faire plus tard une prédication, c'est juste pour nourrir mon âme. Et le résultat est toujours le même. Après quelques minutes de méditation de la Bible, mon âme est portée soit à la confession d'un péché, soit à la louange, soit à la supplication. Et puis je passe au verset suivant et je prie au fur et à mesure que je lis, selon que la parole me conduit. Et avant d'arriver au petit déjeuner, mon âme est déjà dans la paix et dans la joie. C'est comme ça que Dieu veut que le chrétien vive, dans cette méditation des Écritures. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle sauve aussi les enfants. C'est important pour les enfants. Dans 2 Timothée 3,15, parce qu'on a vu 3,16 tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier le 15. Paul dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Dès ton enfance, tu connaissais la Bible qui te rend sage à salut par la foi. Timothée avait une grand-mère et une mère juive et qui connaissaient les Écritures, qui lisaient l'Écriture à leurs enfants. Les Juifs de cette époque enseignaient très sérieusement leurs enfants dans la Bible parce que c'était dans la loi. Il dit, tu dois instruire tes enfants, tu dois leur dire la loi, ils doivent la connaître. Et il dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Et le mot hébreu, là, ça veut dire aiguiser. Tu vas aiguiser tes enfants avec la parole de Dieu pour qu'ils... C'est pas simplement que les enfants connaissent les histoires de la Bible. C'est que les enfants connaissent le Dieu de la Bible. Parce que les histoires de la Bible, ce n'est pas ça qui change votre vie. C'est le Dieu de la Bible qui change votre vie. Il y a quelque temps, on avait rencontré une femme qui faisait une thèse de sociologie sur les Bibles pour enfants en France. Donc c'était une thèse très précise, hein ? Les Bibles pour enfants en France. Eh bien, elle a dit, c'est de plus en plus rare. Elle dit que ce soit chez les juifs, chez les catholiques et chez les protestants, il n'y a pas assez de Bible. Elle dit, enfin, ça diminue, quoi. Elle dit, c'est vrai, les évangéliques sont un peu plus avancés dans ce domaine, mais il ne faut pas se reposer sur des lauriers. Ça disparaît très vite. Hein. Beaucoup de parents ne donnent plus aucune éducation religieuse à leurs enfants. Ils disent, oh, ils choisiront plus tard. Vous avez déjà vécu ça ou entendu ça? Résultat, c'est quoi? Ben, ils choisissent rien, puisqu'ils n'ont rien à choisir. Pour choisir, il faut choisir entre ça et ça. Mais comme ils ne connaissent rien, ou alors, si, ils sont endoctrinés par Internet, hein, et ils tombent dans le djihadisme musulman, par exemple. Hein. Il faut donner à nos enfants des connaissances sur la parole de Dieu, sur le Dieu de la Bible. La Bible dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Combien c'est vrai. On ne va pas endoctriner nos enfants avec la Bible en leur disant « Ah, apprends tout par cœur hein !» Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On doit leur enseigner la pensée de Dieu dans l'Écriture. Je terminerai ce matin avec le fait que la Bible est pour le chrétien une consolation. Bien sûr, la Bible est beaucoup de choses pour nous et je pourrais continuer longtemps, mais je voulais terminer avec cela. Psaume 119, verset 50. Et si ça peut vous encourager à relire le psaume 119 et à chercher, méditer ce psaume, c'est-à-dire chercher les bénédictions et les enseignements dans ce psaume. Mais le verset 50, 49 pour le contexte, n'est-ce pas ? Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Quand on a des promesses de Dieu, c'est notre consolation dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans notre misère. Les promesses de Dieu sont un soutien pour le chrétien. Parfois, on est dans de telles épreuves qu'on perd courage, on perd la foi même, hein? on doute de Dieu, on dit « mais pourquoi j'ai tellement d'épreuves, de difficultés ?» Et c'est là que les promesses de Dieu nous rendent la vie. C'est là qu'il faut plonger dans l'Écriture, à nouveau. Même si c'est un effort, dire « Seigneur, je sais que dans l'Écriture, il y a la consolation. Je sais que Déjà, j'ai la vie éternelle parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Donc déjà, je n'ai pas à craindre la mort. Mais même, on a vu le verset Romains 8, 39, « Je n'ai pas à craindre les hommes parce que rien ne peut me séparer de ton amour. » Je n'ai pas à craindre les épreuves parce que la Bible dit « Réjouissez-vous dans l'épreuve, elles sont pour votre foi, pour votre fortification. » Alors Seigneur, je veux croire tes paroles et je veux laisser faire cette consolation dans ma vie. Nous ne sommes pas des bons consolateurs. Regardez le livre de Job. Le pauvre Job était accablé de maux par le diable. Il se retrouve malade avec des ulcères sur tout le corps. Et là, il a des amis consolateurs qui viennent. Ah ben moi, j'en veux pas des amis comme ça. Hein. Parce que d'abord, ils se taisent. Ça se passe assez bien. Tant qu'ils se taisent, ça se passe bien. Et puis le moment où ils ouvrent la bouche, c'est pour dire quoi ? Job, si t'arrive tout ça, c'est parce que tu as dû faire des grands péchés. Tu dois être un mauvais croyant. C'est pas normal que tu aies toutes ces épreuves. Quel péché as-tu fait ? Allez, à vous ! Et Job, il dit, mais moi, j'ai rien fait. Je suis un pécheur comme tous les hommes. Je ne suis pas parfait, mais chaque fois que je fais un péché, je fais un sacrifice, au cas où. Et j'essaie d'être près de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive tout ça. Il dit, ah oui, en plus, tu te caches. Hein, tu ne veux pas avouer la vérité. Allez ! Pauvre Job. Il n'avait pas des bons consolateurs. Ils l'ont accablé, ils l'ont enfoncé. Ils lui ont enfoncé la tête sous l'eau. Mais la Bible, elle nous console dans l'épreuve. C'est vrai qu'elle nous montre où on en est vraiment, notre état spirituel, nos péchés. Des fois, dans l'épreuve, c'est là qu'on voit mieux nos péchés. C'est quand on est mis à l'épreuve qu'on révèle notre vrai cœur. Ce n'est pas toujours beau. Mais avec cela, la parole de Dieu apporte toujours le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Le sang de Christ nous purifie de tout péché, dit la Bible. Et notre Seigneur est notre consolateur. Il est appelé le consolateur. Et il a dit, quand je partirai, et justement quand il est parti au ciel, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous console. Nous avons la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Qu'est-ce que ça voulait dire cette phrase ? Ça voulait dire que le Saint-Esprit va rappeler tout ce que Christ a dit. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Si je ne lis jamais la Bible, le Saint-Esprit ne pourra pas me rappeler la Bible. Et son effet va être très, très limité. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut déjà que j'aie la parole de Dieu dans mon cœur. Et cette parole nous console. Si vous êtes dans une grave difficulté, dans une détresse, rouvrez la Bible. Bien sûr, il y a des passages qui ne sont pas appropriés au moment de détresse. Mais lisez par exemple les psaumes ou lisez l'évangile selon Jean. Regardez au Seigneur et vous trouverez une consolation véritable et profonde. Combien de chrétiens ont pu dire qu'ils ont été consolés d'un deuil, consolés d'une maladie, consolés du chômage, consolés d'épreuves terribles, rien qu'avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu qui les soutenaient tous les jours, même face à la dépression. C'est merveilleux d'avoir la parole de Dieu, mais encore faut-il l'utiliser. Le premier verset que j'ai cité dit « Vous avez reçu la parole, non comme une parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Seigneur, nous voulons croire en ta parole et que ta parole agisse en nous. Je suis toujours touché par les nouveaux chrétiens, combien ils aiment la Bible. On a notre frère qui, le lundi, recopie des versets pour qu'on les lise. On sent qu'il aime la Bible. Il se régale dans la Bible, il la recopie. Et les anciens chrétiens, où en sont-ils ? Oh ben, je l'ai lu 2-3 fois, oui, ben maintenant c'est bon. Est-ce qu'on aime la Bible toujours ? Que le Seigneur nous ramène à sa parole et nous aide à l'appliquer tous les jours de notre vie. Terminons par la prière et ensuite on pourra chanter. Avant de prier, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'est pas au Seigneur ? Vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Vous n'êtes pas prêt à mourir. Nous avons vu dans Colossiens 1:20, que Dieu dit que c'est par la foi au sang de Christ qu'on est réconcilié. Est-ce que vous avez cette foi ce matin de croire que Jésus-Christ, par son sang précieux, par son sacrifice, a payé toute votre dette, qu'il vous réconcilie avec le Père? Est-ce que vous le croyez vraiment? Si vous le croyez de tout votre cœur, la Bible dit que vous serez sauvés. Si tu crois de tout ton cœur que Christ est le Sauveur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, dit la Bible. Alors c'est le moment d'exercer votre foi et de dire: Seigneur, veuille me pardonner tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que ton sang précieux a coulé pour mes péchés. Et je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur. Seigneur, sauve-moi. Merci.